On a des bonnes nouvelles au niveau des prévisions pour la fin de semaine. Le soleil est de retour, chers amis. Le maximum est atteint, on a 19 degrés présentement à Québec. Quelques nuages ce soir, cette nuit, avec un minimum de 8. Demain, généralement ensoleillé, maximum 20 degrés. Quand même des rafales de vent à signaler jusqu'à 40 km/h. Dimanche, alternance soleil-nuage, 60% les probabilités d'averse, avec un maximum de 18. Et lundi, plein soleil, maximum de 20 degrés. Les routes sont chargées, c'est vendredi à l'aube d'une fin de semaine de 3 jours. Audrey.
Ça fait à peu près une demi-heure que ça s'est passé, mais c'est encore d'actualité sur Robert Bourassa, direction Nord. Fermeture de la sortie pour Wilfrid Hamel. Sortie de route, les services d'urgence qui sont encore sur place au moment où on se parle. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, assez difficile de circuler en ce moment. Robert Bourassa, direction Nord, vous comprendrez que c'est au ralenti entre Charest et Wilfrid Hamel. Des problèmes sur Charest, direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa. Si vous êtes sur Henri IV Sud, un peu après Wilfrid Hamel, on sent ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Du Plessis Sud, ça se passe de Charest au pont La Porte. Et sur la 20, direction Ouest, il y a des problèmes entre la route du président Kennedy et Taniata. Ça, c'est direction Ouest. Direction Est, ça se passe entre, je vous dirais, Dussault et Taniata. Semble y avoir d'ailleurs un incident, là, justement, à cette hauteur-là, qui crée ce ralentissement. Évidemment, si vous voyez autre chose, 418-971-1021, texto.
Elle a vécu les ponts pour être avec nous en studio, rien de moins. C'est la chronique alimentation première, Sandra Plourde, Sandra Foudy qui est avec nous autres. Hello!
Hello! Je peux-tu rester avec vous autres jusqu'à la fin du show?
Non, oui. Absolument! On a de la bière, on sait recevoir, il n'y en a pas de problème. C'est le bordel, hein?
Oh oui. Oh
ça,
oui,
ça t'a pris combien de temps t'en venir?
Ben pour m'en venir, c'était pas si pire, mais je voyais ça de l'autre côté.
Ouais,
là,
ça commence à
se
charger, hein?
Je suis pas de retour chez moi.
Ça paraît que les gens ont pris off. Là, ce midi, c'était la folie furieuse sur les routes. Il y a eu des accidents en plus à la sortie du pont, des pannes. Fait qu'on dirait que la grosse circulation du vendredi dans le retour a commencé genre 5 heures avant.
Pour les gens qui sont pas dans le 4 saisons, il y a bien des barbecues qui vont s'inaugurer en fin de semaine.
Ah oui.
J'ai l'impression, j'ai le feeling. Fait que peut-être passer du côté d'alimentation première pour aller chercher de la grosse bouffe de première qualité. C'est garanti. Commencez votre magasinage alimentationpremière.ca.
Tout à fait. Je parlais avec une représentante de Traeger, puis elle me disait que plus les Canadiens se rendent loin en série, plus les ventes de barbecue sont bonnes.
Évidemment.
Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient équipés corrects, qui disent « Ah là, on va recevoir ce sens du monde. Je vais aller m'acheter quelque chose de plus hot, de plus neuf. » C'est logique, là.
100%.
Ouais. La vie est plus le fun avec le Canadien en série, finalement, au total. De quoi on jase aujourd'hui?
Aujourd'hui, on vous parle de bouffe de match, justement.
Oh, yes!
Pourquoi ouais, c'est ça que je disais plus tôt. Je disais, tu règles le souper de tout le monde demain.
Pourquoi pas? On va y aller avec un nachos, mais tu sais, on peut pimper ça de tellement de façons différentes.
C'est pas plate, des nachos.
Non, jamais. Jamais. Puis même quand j'ai pas accès à un four pour faire gratiner un nachos, capable de faire des excellents nachos aussi quand même. Souvent, tu sais, je vais me déplacer pour faire un peu de food truck, si on peut dire, mais je fais des nachos pimpés avec du canard confit ou du porc effiloché que j'ai fait fumer dans mon barbecue, etc. Fait que ma façon de le faire, c'est que tu mets vraiment les chips au début. Après ça, ton fromage et ta viande chaude par-dessus ton
fait
fromage.
Tu n'auras pas le gratin, mais le fromage va être fondu.
Exactement.
C'est un peu ce qu'on mange là.
Oui, puis même à la maison, quand je le fais traditionnel au four sur une plaque, je vais mettre mon fromage avant de mettre ma salsa et ma viande ou mes aliments qui sont un peu plus liquides pour ne pas venir détremper mes chips. Fait que le fromage va juste coller aux chips puis il va faire une espèce de protection pour ne pas avoir des chips trop mouillés comme des fois on a au resto.
Ça, c'est l'enjeu. Hein?
Vraiment. Oui, ouais, tout à fait. Puis après ça, des viandes. On peut mettre n'importe quelle viande de qualité. Mais là, aujourd'hui, je vous ai pimpé les chips quand même.
C'est incroyable.
À base, t'as pas pris des chips habituels, des chips à nachos? T'es allé te promener ailleurs?
Ouais, les Doritos. Pourquoi pas mettre des Doritos pour faire un nachos? Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est déjà
tellement
bien fromagé.
Ben oui. Surtout que moi, je pogne mes chips à nachos, puis là, je vais rajouter, je sais pas, du cumin dessus, du chili mexicain.
Ah, ben, c'est plate des fois.
Je me complique donc bien à vie. Il y avait les Doritos qui étaient juste là.
Ben oui, pourquoi pas? Puis tu sais, en plus, il y a plein de sortes de Doritos, là. Tu peux
c'est
aller
ça.
Dans
infernal,
le plus
spicy.
Ouais, oui, c'est ça.
Ça, je le file avec ta recette.
Ça, c'est les Doritos de base, là.
Ouais,
fromage exactement. Nachos.
Ouais, 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 le gros sac que j'achète au Costco.
Puis si vous trouvez que c'est trop épicé, faites comme ma blonde, mélangez les deux.
Oui.
Des Tostitos nature
c'est une bonne
à 50 %. puis des Doritos à 50 %, tu mélanges ça. Pour vrai, c'est bon, c'est excellent.
Bonne idée. Ouais, très bonne idée. J'approuve 100 %. Ensuite de ça, chez Alimentation Première, ce qui est le fun, on a vraiment une belle variété d'aliments, de viande mexicaine, un peu déjà toute prête dans leur bouillon, dans leurs assaisonnements, toute cuite, juste à réchauffer, on décongèle sous l'eau chaude. Taco Foods fait du porc, du poulet, du bœuf et même de la viande à fajitas, là, qui est du poulet, mais plus en lanière. C'est déjà tout prêt.
Tu sais, quand tu reçois en plus.
Bien, demain soir. Exact. Écoute, le Canadien élimine les Sabres.
Oui.
Il va faire beau. On va peut-être travailler un peu ses terrains, mais on ne veut pas trop travailler non plus. Ça peut être l'idéal.
Il y a peut-être de la visite de l'extérieur qui débarque. Ben il y a peut-être des chums où, qui ont comme « Hey, on n'a plus de place pour aller regarder le hockey. On ferait ça en gang. » Ça règle le problème, là.
Oui, parce que si vous n'avez pas réservé quelque part, c'est trop tard. Sûr que c'est trop tard. Là. Mais pourquoi pas se faire une bonne bouffe à la maison, justement, puis prendre la bière qu'on veut, etc., puis manger ce qu'on veut. Fait que les Taco Foods, chez Alimentation Première, vous pouvez aller choisir un peu dans le porc, dans le poulet, dans le bœuf. Le bœuf, c'est vraiment des recettes mexicaine traditionnelle. Barbacoa, on est vraiment dans le poulet tinga aussi. Fait qu'on a des belles saveurs. Ça, c'est le porc que vous avez. Il est savoureux, il est très juteux. Hein?
Oui, très, très bon.
Alors, je l'ai rehaussé aussi avec un petit queso. Moi, j'aime bien ça, une sauce au fromage quand même. Je vais la mettre directement sur la viande. Ça va rendre un petit côté un peu plus onctueux. Puis mon queso, je le fais avec la bière. Vous y aviez déjà goûté au Super Bowl. Et du chorizo qui est croustillant, que j'ai juste passé au robot.
Il y a des gens qui mettent du bacon partout. Toi, tu mets du chorizo partout.
C'est vrai, hein, quand même.
Là, il y en a. Parce que je sais qu'il y en a deux types. Il y en a un qui est plus un peu saucisse, puis il y en a un qui va être un peu plus séché. Lequel des deux tu prends?
Moi, je prends le saucisson plus séché, justement. Puis je le coupe en gros morceaux. Je l'envoie dans mon robot culinaire. Mm. Ensuite, je le fais cuire à basse température pour qu'il libère tout son gras, que je vais bien sûr garder. Ce gras-là est très, très aromatique. Et après ça, le petit chorizo croustillant, j'en mets vraiment partout. T'as bien raison.
Puis, chaque fois, je suis comme, bon, tu es allé pour du bacon, mais c'est encore mon délicieux chorizo.
Mais
j'adore
même le
ça.
Pire, tu dis, je garde. Le gras, puis c'est pas la première fois aussi qu'elle nous dit qu'elle part des recettes de gras, c'est une bonne idée.
Exactement, il n'y a rien qui se perd.
Puis dans les choses que tu aimes rajouter, mais ça, je pense que c'est juste pour nous autres, là, ta moutarde piquante. Là.
Ouais.
C'est quelque chose.
Mais je sais que vous l'aimez beaucoup, ma moutarde piquante. Fait que j'ai dit pourquoi pas, on va la rajouter en petites gouttes un peu partout sur le nachos. Ça ajoute une belle acidité, un petit côté sucré aussi avec l'érable qu'il y a dedans. Puis la purée d'habanero là, vient nous faire le petit kick qu'on aime ça avoir dans notre nachos.
Tu sais, ça a l'air niaiseux, là. La coriandre puis l'oignon vert sur un nachos, je trouve que c'est une finition. Tu sais, ça n'a pas l'air de quelque chose que tu as juste monté sur le fly avec des restes. Je trouve que ça fait réfléchir. Puis je sais qu'Audrey n'aime pas la coriandre, mais moi, c'est parce que ça fait des bouchées parfaites à chaque fois. Là.
Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, la fraîcheur n'est jamais à négliger dans un plat. La verdure, la fraîcheur, que ce soit pour l'œil ou même en bouche comme tel, on veut avoir un peu plus de croustillant avec nos petits oignons verts aussi. Puis la coriandre, là, en tout cas, moi, je suis dans team coriandre. J'en mettrais aussi partout.
J'aimerais tellement ça light, là. T'sais, c'est même pas un choix.
Non,
je
c'est pas un choix.
Je sais pas comment l'expliquer.
T'as pas été repêché. Par team coriandre.
Non, pas,
non,
pas en
c'est
tout.
Pas arrivé.
Il ne veut rien savoir.
Comme son équipe de ballons chasseurs au primaire.
Ouais. Exact. Fait que si vous manquez d'inspiration, ben, allez yeuter un peu alimentationpremière.ca.
C'est quoi déjà le nom de la marque pour toutes les viandes de type mexicaine?
C'est Taco Foods. Oui, vous allez trouver ça très, très facilement. Puis il y a d'autres types de viandes aussi qui sont déjà cuites chez Alimentation Première ou une belle viande hachée de Wagyu. T'sais. On peut aller se pimper ça puis mettre ça sur notre nachos. Là.
Puis si on manque d'idées, t'as ça, toi, un livre de barbecue, je pense.
C'est vrai.
Ben oui, ben
j'ai
oui.
même un petit dossier nachos dans mon livre que j'ai fait... entre autres, un nachos d'ailes de poulet. Fait que pas de chips, c'est les ailes de poulet qui font la base.
Hey!
Ensuite, on rajoute... Ouais, c'est un peu cochon.
C'est un peu pas mal.
Fait que après ça, une petite salsa fraîche avec du maïs, de la mangue, des choses comme ça, directement sur nos wings. On gratine avec du fromage. Un nachos de wings, pourquoi pas?
Quelle bonne idée.
Sandra Faudy, merci beaucoup. Bon appétit, puis bonne fin de semaine. Profitez-en, alimentationpremière.ca. C'est le début du week-end. C'est Gravel dans le retour. On est là jusqu'à 18h. 418-971-1021. Gravel. On vous rappelle qu'à partir de 18h, la musique reprend ses droits pour toute la longue fin de semaine de 3 jours. D'ailleurs, on vous propose les meilleurs covers pour un boulevard du rock bien spécial. Pendant les 3 jours, on va explorer les reprises qui ont marqué l'histoire de la musique. Et soyez là, parce que j'ai l'impression qu'aux environs de 16 heures, ça va sentir la fin de semaine. Déjà que ça sent la coupe à Montréal, hein, que plusieurs disent. Là, ça va sentir le week-end. Puis je pense qu'on va mettre la table, on va se donner un petit peu de gaz. Du gaz d'avion, du gaz de cover. On vous donne les détails tantôt, mais tenez-vous pas trop loin du téléphone. On va aller vous jaser 418-780-1021. Les covers les plus marquants toute la fin de semaine à Boulevard 102.1, présenté par Climatisation Paquette. En mai, profitez de 200 $ de rabais sur les thermopompes Mover pour le meilleur service en 24 heures. ClimatisationPaquette.com. Et parlant de musique, on va regarder, Audrey, les nouveautés musicales. Est-ce qu'on retourne sur les routes juste avant?
Ah, ouais, ça hein? vaut peut-être la peine.
Je pense que
vrai.
Oui. C'est quand même mangeons nos brocolis, puis après ça, on fera du dessert. Oui,
c'est ça. Commencez par la Rive-Nord. Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, toujours autant au ralenti. Ouest, c'est concentré à la hauteur de Robert Bourassa. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, il y a encore cet accident là, dans le coin de Wilfrid Hamel. Sortie fermée, d'ailleurs, ce qui fait en sorte que c'est super bloqué entre Charest et Wilfrid Hamel. Henri IV Sud de Wilfrid Hamel au pont, quand même difficile. Duplessis sud de Charest au pont La Porte. Ensuite de ça, sur la rive sud, la 20 direction ouest, c'est entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles pour la première portion. Sinon, c'est direction est que ça se passe entre les ponts et Taniata. Et il y a des ralentissements aussi à prévoir direction ouest dans le coin de Taniata. Beaucoup de zones de construction. Puis je lisais un texto tantôt de Pat, là, un auditeur qui me disait hey, attachez votre truc, ça va être de même pour des années. Là, il travaille là-dessus. Il m'écrit écoute, sur la 20 est vers Lévis à Taniata. C'est de la construction, rétrécissement de 3 à 2 voies déçu de la rivière et de chemin. Idem, la 20 ouest, même hauteur, proche de Taniata. Travaux, troisième voie, direction ouest, puis ça va être comme ça pour plusieurs semaines, qui dit. Fait que attachez votre truc dans ce coin-là, ça risque pas de débloquer. Puis Guillaume Couture, dans les deux directions, voyez-vous, il y a des problèmes entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles. Ça, c'est comme les grandes artères. Si vous voyez autre chose, 418-971-102 texto.
Y a-tu bien du stock dans les nouveautés musicales de ce vendredi?
Quand même, mais c'est du stock intéressant. J'ai quand même fait un bon ménage parce qu'il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, mais ça tirait vraiment partout. Là. Peut-être commencer par album EP. Je commencerai par The All American Rejects qui sort son album aujourd'hui, Sandbox. Eux vont être au Festival d'été de Québec le 15 juillet. Soirée assez spéciale, on est en première partie de Shaggy et Kesha.
Oh là là!
Les gens qui vont se voir juste au moment de rentrer puis de sortir
du site, ça va se croiser. Oui.
Ça, c'est la première chanson de l'album. Je pense que c'était le premier extrait. Easy Come, Easy Go. Et on va essayer la pièce-titre de l'album Sandbox.
Amène dans un tout autre mood. On s'en va rejoindre The Franklin Electric. C'est la sortie du EP Something More aujourd'hui, 6 tunes. J'ai personnellement un petit coup de cœur pour la chanson Roses, mais tu sais, The Franklin Electric, on est ailleurs. Là. Ça ressemble pas en tout à The All American Rejects. On est plus à la plage. C'est un mood très été, très relax.
C'est pas tant électrique que ça.
Pas en tout. The fire and the rain. November's always colder. Dans les singles, peut-être aller vers Sublime, qui a une nouvelle chanson aujourd'hui. Sublime qui va être au Vans en passant en haut du côté de Montréal. La chanson s'appelle Can't Miss You.
Puis Sublime, c'est gros parce que je pense que c'est le deuxième extrait au moins de l'album qui est à sortir, et c'est le fils du chanteur original qui est rendu avec Sublime, fait que ça va être leur premier album en 30 ans.
Nouvel album qui sort le 12 juin prochain. On reprend là où on a laissé.
Sonne hein? Pareil comme ben oui. Son père. Pareil.
Il y a de quoi de charmant là-dedans, je trouve.
Son père qui n'a jamais connu le succès du band, il est mort avant la sortie de l'album.
L'album va s'appeler Until the Sun Explodes. Donc la nouvelle tune c'est Can't Miss You. Et Ensenada qui était déjà disponible. Ça sent l'été.
C'est Travis Barker d'ailleurs qui a produit l'album.
Solide.
Je pense que ça va être bon.
Sublime.
On se dirige vers Five Finger Death Punch. De leur côté, la chanson qu'on sort aujourd'hui, c'est Eye of the Storm. Et là, je suis en train de regarder justement s'il y a des annonces d'albums faits. Il y a un album à venir plus tard cette année. On n'a pas encore de date, par exemple, pour ce qui est de Five Finger Death Punch. C'est mais on a le nouveau single Eye of the Storm.
C'est bon.
Breaking Benjamin revient avec une nouveauté aujourd'hui. Vois-tu, je ne l'ai pas encore entendue, celle-là. La chanson s'appelle Something Wicked.
Something Wicked, Breaking Benjamin.
Les Strokes sortent le deuxième single de leur album à venir le 26 juin prochain. Aujourd'hui, ça s'appelle Falling Out of Love, l'album qui s'appelle Reality Awaits, qui s'en vient dans à peu près un mois.
Hey, y'a-tu quelqu'un qui peut trouver son piton à lui sur le micro là, pour enlever l'effet? Là?
J'ai regardé la prestation que les Strokes ont faite hier au show de Colbert, puis à un moment donné, ça lâche. Mais moi, je trouve ça beau ce que ça donne. Oh. Ça, mais je suis une fan finie. Ouais.
Je trouve ça
moi, le toto, détestable. En général, tu me perds.
Surtout que le gars sait chanter. Tu sais, normalement, l'autotune, c'est pour t'empêcher de fausser.
T'as un morceau de porc sur la tête.
Ben voyons, toi. Sérieux?
Mais là, tu y es tombé, là, t'as réussi à le...
Qu'est-ce que tu fais avec du porc effiloché sur la tête?
J'essayais de l'ignorer, mais chaque fois qu'il te regardait, Véro, je voyais le gros morceau effiloché à côté de son oreille.
Je pense que c'est mon gars qui m'a garni.
Sandra Foudy est encore en studio.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
désolé.
L'album à venir le 26 juin prochain pour les Strokes. On va saluer l'ami Max. Il y a une collaboration entre Machine Gun Kelly et Wiz Khalifa qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Girl Next Door. Et je vous lis ce que Max a laissé comme note dans notre conversation.
C'est sûrement très long pour rien. Là.
Collab d'été. Très bonne, évidemment. Quand Max parle de MGK, généralement, c'est jamais négatif. Let's get over ourselves. Be grown
about it and talk it out. Live for the moment. Let's change the vibe. Now. Ouais, ça va jouer dans mon char quand c'est pas moi qui ai le contrôle de la musique, ça.
Avec ton fils Maxime.
Ouais, des fois, faut le traîner en vacances avec nous.
Grosse collaboration entre Ed Sheeran et Martin Garrix. Et je vous en parle pour une raison, c'est que Martin Garrix, c'est la soirée électro cette année au Festival d'été de Québec. Soirée électro qui va être un samedi, ça risque d'être complètement débile sur les plaines et sur la Grande Allée. Puis c'est une collaboration qui fait quand même jaser aujourd'hui. La chanson s'appelle « Repeat It ». Pogné chez nos voisins de week-end, entre autres, mais moi, à moins que tu me dises qu'il y a une drop plus tard, là, mais à date...
Ça n'a pas de la partie pour avoir de drop, comme
pour moi,
tu
c'est
dis,
pas
là,
du ouais. Martin Garrix Animals, genre. Là. Ah! Ben, tu sais.
C'est
oh,
sûr.
On les recule. Non, mais c'est doux, c'est moins mon genre.
Mettons que c'est 65% Sheeran, puis le reste à Garrix.
Genre.
À peu près. Deux tiers, un tiers.
Dans la douceur. Je vous ai parlé dans les dernières semaines de Stella Lefty, qui est un peu une découverte pour moi, la nouvelle blonde à Max, vous comprendrez. Là. Elle a sorti la chanson Boston il y a quelques mois maintenant, qui l'a rendue quand même assez populaire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle sort une chanson avec son amoureux, Vincent Mason. Something to Lose, c'est surtout ça qu'il faut retenir, le nom de la chanson.
Donc, tu dis c'est la blonde à Max, mais elle a un amoureux ouais, qui n'est pas Max.
C'est ça.
La réalité étant ce qu'elle est. This was never supposed to be nothing but a little something to do. Et le petit Cocofield. I got ah. good at being lonely till you
show me how it's better. Non, mais sa voix me rend vraiment curieuse. Chaque fois qu'elle sort du stock, je sais pas, je suis à l'oreille.
Ah, c'est lui, ça, Vincent Masson.
Là, on se dirige vraiment dans le country, vous comprendrez. Là, je garde cette lignée-là parce que Luke Bryan sort le deuxième single de son album à venir le 18 septembre prochain. L'album va s'appeler Signs et la chanson qu'on sort aujourd'hui, Fish Hunt Golf Drink.
Tabarnouche, hein? On est vraiment dans le country. On connaît l'ADN du country. Let me tell you how every day would go. Wake up, coffee, camo, climb tree, wet line. Il y a une vidéo horrible où il est sur le bout du quai avec sa canne à pêche, puis il chante sa toune.
C'est qui n'est pas du bon bout du quai?
c'est vraiment cliché.
Oui, il pêchera rien dans ce sens-là.
Non!
C'est du bon Lou Bryan pour ceux qui aiment.
J'imagine qu'il a fait semblant à sa blonde qu'il allait pêcher pour faire autre chose.
Ouais, un habitué de la pêche se tourne dans l'autre
la
sens.
Dans l'eau.
Vers l'eau, idéalement, oui.
Je termine avec Shania Twain qu'on a vu sur les plaines l'an passé. Et c'est vraiment juste une curiosité, pour être honnête, parce qu'elle sort son 7e album en juillet qui va s'appeler Little Miss Twain. Premier album depuis 2023. Puis aujourd'hui, on découvre le premier single, Dirty Rosie. Je l'ai écouté 15 secondes un matin.
Y'a-tu une drop?
Non! Audrey a eu une drop.
Ouais.
Ouais, elle a vieilli, hein? Je parle du son, là.
Oui, non, mais oui, elle griche un peu, je trouve. Là, on est loin de Men I Feel Like a Woman,
mais c'est pas
effectivement, c'est pas méchant.
Moi, je m'attendais à vraiment quelque chose de moche, là.
Mais tu sais, je sais qu'à ce son-là, moi, le 7e album, je réserverais pas un moment pour l'écouter dans ma fin de semaine.
À surveiller Audrey dans 3 semaines. Je vais écouter cette scène-là.
Peut-être.
On sait pas. Peut-être.
Tout est possible. Il est 15h33, vous êtes à Boulevard 102.1, donc ça fait le tour des principales nouveautés. On va se reparler de musique tantôt. Et évidemment, toute la fin de semaine, Boulevard 102.1 vous propose les meilleurs covers de l'histoire du rock et de la musique. Soyez des nôtres pendant la longue et belle fin de semaine de 3 jours. Gravel. Boulevard. Il est 15h39. À Boulevard 102.1, encore bien des choses à jaser d'ici 18h. On va prendre le temps de faire le tour de l'actualité avant de tirer la plug pour la fin de semaine. On va se brancher avec Richard Martineau aux environs de 17h pour notre segment Québec-Montréal. On va revenir sur sa chronique qui a touché bien du monde pour dire aux gens de trouver un métier qu'ils aiment avant de penser à faire de l'argent. Non, c'est pas facile, c'est pas évident, mais ça amène une réflexion sur un paquet d'affaires. Fait qu'on va se jaser de ça un petit peu. On va jaser également avec Max Larouche. Victoire du Canadien hier face au Sabre de Buffalo. C'est pas une game où l'arbitrage a retenu énormément l'attention, mais qui dit séries éliminatoires, à un moment donné, ça devient un peu un sideline de notre sport national de parler du travail des arbitres. Puis il y a eu quelques controverses. À un moment donné, en première période, le match précédent, ça a été arrêté pendant 12 minutes avant de déclarer un but bon, que le but soit challengé par Martin Saint-Louis, puis que finalement le but soit plus bon. Puis j'apprenais aux filles, puis je l'apprenais quasiment en même temps, que les arbitres de la Ligue nationale de hockey vivent leur série un peu comme des équipes, c'est-à-dire qu'il y a 35 juges de ligne et 35 arbitres qui débutent. Et après ça, ben, au fil des séries et des équipes qui s'éliminent, il y a des arbitres qui se font littéralement éliminer, de la façon que j'ai compris. J'ai trouvé le processus intéressant, d'autant plus qu'on avait les chiffres dans les journaux. C'est des Moses de belles primes, là. Un travail qui est de plus en plus difficile, peut-être, avec les gens qui deviennent de plus en plus agressifs dans les arénas.
Ah non, mais moi, j'y vois aller, là. Faut trouver le moyen de se sauver des pocs, des mises en échec dans lesquelles ils se retrouvent exactement dans le bon alignement. Des fois, de se retrouver au cœur d'une bagarre où tu vois que les gars ont perdu la tête puis t'essaies de séparer tout ça. C'est un art.
Il est porte-parole de Sport Aide depuis janvier 2024. Il a arbitré dans la Ligue nationale de hockey plus de 10 saisons, plus de 1200 matchs. Il a fondé une école d'arbitrage, en plus de porter vaillamment la cause du respect des officiels dans le sport. Une cause qui ne doit jamais être perdue, même si des fois c'est décourageant. On s'en va rejoindre Justin Saint-Pierre. Salut Justin.
Salut la gang, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, merci.
Qu'est-ce qui est devenu plus difficile dans la job d'arbitre au fil des années? Oh, ben, c'est rien que nous autres qui s'inventent ça.
Écoute, on pourrait en parler longtemps de ça. C'est-tu le monde qui s'invente des affaires? Écoute, cette année, je pense que des séries, les années auparavant, on entendait avec les affaires, les arbitres serrent le sifflet, ils veulent pas qu'on les. Je pense que cette année, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire que les arbitres ne comptent pas cette année. Toutes les séries, je regarde toutes les séries, puis ça compte des punitions. Encore là, deux jours, on a vu la série Montréal-Buffalo, il y a eu 7 punitions d'un bord, 4 de l'autre. Hier, ça a été il y a eu moins de punitions parce que la game peut-être qu'elle était plus en jeu. Une game 5, c'est toujours important. Fait que je pense qu'il n'y a eu pas gros de punitions hier. Puis les punitions qu'ils ont appelées hier, je pense qu'ils étaient toutes là éventuellement. Et puis oui, là, peut-être qu'ils en ont manqué une ou deux hier. Puis elles qui ont manqué, c'était contre Montréal quand il a pogné le joueur de Buffalo dans la visière à ligne bleue vers la fin de la game. Alors, je pense que pour hier, on peut pas dire que c'est le travail des arbitres n'a pas été fait.
C'est quoi la préparation pour un match des séries éliminatoires pour un arbitre? Vous préparez-vous les quatre ensemble? C'est-tu de la préparation individuelle? On se renseigne-tu sur les matchs d'avant? Comment on se prépare à arbitrer une game comme celle-là?
Écoute, pendant les séries, chaque série a un superviseur. Okay. Fait que les superviseurs vont rencontrer les coachs. Des fois, ils n'ont pas besoin de parler aux superviseurs. Ils vont rencontrer des directeurs gérants. Ils se parlent de la game d'avant, c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi que les directeurs gérants ou les équipes n'ont pas aimé. Après ça, les superviseurs, ça, c'est le matin avec les coachs. Vers 11h, 11h30, avant le dîner, ils rencontrent les quatre arbitres, les deux arbitres, les deux juges. Ils lui disent c'est quoi qui s'est passé au meeting, puis ils parlent de la game d'avant aussi. Alors, c'est quoi qui s'est passé? Y a-tu des 5 minutes? Y a-tu des coups de salaud? Y a-tu des plein d'affaires qui peuvent se passer d'une partie d'hockey? Alors, ils parlent tout de ça. Fait que quand les arbitres arrivent pour la game du soir, ils sont prêts définitivement à faire la partie d'autre.
Est-ce que les joueurs vous parlent beaucoup pendant le match? Puis ça peut-tu brasser verbalement vis-à-vis les arbitres dans la Ligue nationale?
Écoute, plus à cette heure, plus vraiment. Dans le test, ça pouvait brasser un petit peu plus. Ça chantait plus de bêtises. Puis il y avait des sacs. Puis il y avait plein d'affaires qui se passaient. Mais à cette heure, comme je disais, écoute, il y a tellement des caméras puis des micros là, autour de la patinoire puis dans l'aréna, je pense qu'il y a 36 caméras puis des micros. Il y en a en arrière des buts, en arrière du banc des punitions, en arrière du banc des joueurs, c'est les bleus, il y en a partout. Fait qu'il faut être prudent parce que tout le monde entend. Alors, il faut être prudent là-dedans, même pour les joueurs. Un joueur qui répond à un arbitre, tout le monde va l'entendre crier. Là. Fait que je pense que les joueurs le savent, les arbitres le savent, puis je pense que c'est ça qui... Il y a un petit peu plus de respect avec ça.
T'en as fait mention, Justin, en début de conversation. Il n'y a pas une légende urbaine, mais il y a une croyance très forte que la Ligue nationale de hockey pourrait donner des indications ou des consignes de base au début des séries éliminatoires pour dire, par exemple, allez-y plus mollo sur le sifflet, ce genre de choses-là. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est humain pour les arbitres de ne pas vouloir briser un match de hockey en séries éliminatoires puis peut-être de lever la tête ou de ranger le sifflet un peu plus? C'est quoi la réalité par rapport à ça?
Absolument pas. Nous autres, quand on se fait appeler puis on se fait parler à 20 games, il faut que tu comptes les punitions. Écoute, oui, c'est normal qu'on va manquer des appels. On ne peut pas tous les voir. Les joueurs manquent des buts. Les joueurs manquent des passes, les coachs manquent des changements de ligne. Ça fait partie de la game de hockey. Ça fait partie de la game. Puis écoute, le jeu va vite, là. Le jeu va vite, c'est sûr qu'on va en manquer, mais c'est pas vrai que. Puis je dis pas ça rien que pour défendre mes partners. C'est pas vrai qu'on va sur la glace et dire non, ce soir, on collera pas ça parce que c'est une grosse game. C'est pas vrai. Je peux vous dire que s'il y a une game qui est la game 6 demain à Montréal, c'est une game importante pour les deux bords. Ouais. C'est 3-2 pour un club, puis il y a un club qui il va scorer, puis il se fait accrocher, bien, il se fait tomber, il y a une chance de scorer, bien, il va se faire casser un poignet, c'est sûr, par une punition là-dessus, c'est impossible pour laisser passer ça. C'est impossible. Mais oui, dans des séries comme ça, on veut que les punitions appelées soient des punitions. On veut que ça soit un call qui soit sur la glace. On veut que tout le monde le voie. Fait que dans ce temps-là, ça prouve, mais c'est pas parce qu'on ne colle pas une punition. Un 5 contre 3, là, ça prend. Tu sais, un gars qui va donner un petit coup de hockey sur les palettes ou un petit coup de hockey sur ses balles, là, on ne mettra pas une équipe à 5 contre 3 dans ce temps-là. Ça prend une punition pour mettre un 5 contre 3, puis ça prend une punition pour mettre un 5 contre 4 aussi, mais pour donner un 5 contre 3, ça prend quelque chose d'assez flagrant.
Justin, tu as quand même fait plus de 10 saisons, plus de 1200 matchs. L'évolution de la job avec la technologie, Ça ressemble à quoi? Parce que j'imagine qu'à travers le temps, ça a pas mal changé.
Bien là, on est rendu avec des tablettes en arrière des bancs. À Toronto, ils ont 83 angles de caméra de tout ce que vous pouvez
caler. Tu parlais des micros, tu sais.
Oui, écoute, et oui, ça a changé beaucoup, mais tu sais, nous autres, les arbitres, quand on s'en va sur la glace, là, on ne peut pas dire, on ne le collera pas, on va aller voir l'iPad. On veut coller live. On veut, tu sais, quand il y a une obstruction sur le gardien de but, on dira, on ne le collera pas, de toute façon, le coach va te challenger, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on veut appeler la punition live. Si on dit qu'il n'y a pas de punition, on ne le colle pas. Oui, le coach peut te challenger, mais nous autres, on ne se dit pas, oh, je ne le collerai pas, il va te challenger. On ne peut pas marcher de même parce que t'as raison, tout se met dans les arbitres à sa glace. Parce que les arbitres, ils collent sur live. Puis oui, des fois, on fait des erreurs. Ça fait partie de la game. On peut qu'on ait une obstruction sur le gardien de but. Puis ça soit viré de bord. Puis ils regardent la vidéo en haut. Puis ils voient un autre rang. Puis ils disent, voyons, c'était pas une obstruction. Oui, on change de bord. Puis les arbitres sont pas offusqués de ça. Au contraire, ça nous aide. Puis on est capable pour la prochaine game. Ça nous aide. Puis on grandit, enrichi de ça. Je pense que c'est bon pour nous autres aussi. Parce que, tu sais, les coachs, ils font des vidéos avec les joueurs, les défenseurs, les gardiens de but, les arbitres. On fait des vidéos aussi avec les superviseurs et les boss. Là. C'est pas, on ne s'assied pas dans notre chambre d'hôtel et on ne fait rien. On a un travail à faire. On regarde l'alignement qui joue le soir un contre l'autre. On regarde c'est qui. Je te parle pendant la saison régulière. Dans les séries, c'est différent parce qu'on rencontre le superviseur. Mais dans la saison régulière, on regarde les deux équipes qui ont joué deux, trois semaines avant. C'est quoi qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il as-tu bossé? Y a-tu des punitions de match? Y a-tu des extrêmes inconduites? Des coups de poing? Whatever. On regarde tout ça avant de faire notre job le soir. On a un travail à faire, les arbitres aussi. Oui, on est payé pour caler des punitions, mais on n'a pas rien que ça à faire. Quand on a des punitions, on a un job à faire aussi.
Comment vous vivez avec l'erreur quand vous regardez des reprises ou quand peut-être vous vous ramassez en avant de Sport 30 ou d'un bulletin de sport, puis là, vous voyez des jeux que vous avez calés ou que vous n'avez pas calés, puis là, vous faites « Hey, tabarnouche! Celle-là était évidente, c'est un 4 minutes, on n'a rien calé. » Ou l'inverse. C'est-tu dur de vivre avec cette pression-là puis de réaliser par après qu'on a eu peut-être une influence sur le match?
Écoute, Martin, je te dirais qu'à 98%, là, avant qu'elle passe à Sport 30, la punition qu'on a manquée, là, on l'a reçue sur notre iPad. On l'a reçue sur l'email.
Ouais.
En arrivant dans la chambre d'hôtel le soir.
Ah, oui.
Alors, on n'a même pas le temps d'aller voir, d'écouter. Puis, tu sais-tu quoi? Comme je te disais tantôt, je ne sais pas, moi personnellement, jamais ça parce que c'est comme ça que tu t'améliores.
Okay.
Parce que tu veux pas refaire. Si tu manques un code, tu veux pas refaire sa même erreur-là, tu veux pas leur manquer le code. Fait que il y en a qui sont capables de le voir, de l'imaginer. Mais moi, je suis visuel, jamais ça quand mon boss m'envoyait des vidéos. J'étais capable de voir le code que j'avais manqué. Puis je pense que ça améliore toutes les personnes. Tout le monde s'améliore avec des affaires de main. Si tu te rempires avec des affaires de main, parce que tu es dans la mauvaise business. Alors, faut que tu changes de business. Mais si tu as reçu des vidéos que tu as manqué un corps, il n'y a pas personne qui est fort après ça. Il regarde la vidéo, puis encore là, comme je te dis, on s'améliore avec ça.
Arbitrer une game, on dirait que c'est devenu un sport d'équipe. Hein? Maintenant que vous êtes quatre sur la patinoire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, qu'il y a beaucoup de dialogue. En tout cas, c'est l'impression que ça donne en regardant un match de la Ligue nationale.
Ben, tu sais-tu quoi, Martin? Je suis content que tu me dises ça parce qu'il y a trois équipes sur la glace. Il y a deux équipes de hockey, puis il y a une équipe d'arbitre. C'est à peu près ça.
Oui, hein?
Puis, écoute. Nous autres, les arbitres, on ne perd pas souvent parce qu'on ne score pas de but. On n'en perd pas non plus parce qu'on s'en fait pas scorer. C'est qu'on gagne souvent.
Vu de même, c'est une bonne façon de voir les choses. Dans les arénas qui ne sont pas les arénas de la Ligue nationale de hockey, dans les arénas du Québec, on voit que c'est de plus en plus difficile de recruter des arbitres. Souvent, ils sont de plus en plus jeunes. Ils se découragent facilement aussi parce que les gens sont terriblement sévères dans les estrades. Moi, ça me décourage. Je suis un papa d'un jeune joueur de hockey, puis des fois, je me dis, tabarnouche, les joueurs sont en joie le vert après un arbitre qui a un an, deux ans de plus qu'eux autres. Est-ce que tu vois une dégradation du climat dans les arénas? Est-ce que les gens, maintenant, se croient davantage tout permis? Ou c'est juste que maintenant, dès qu'il y a un incident, il est filmé, on le voit à LCN pendant une semaine, puis on a l'impression que c'est rendu pire qu'avant?
Écoute, Denis, je pense que le problème, c'est qu'il y a trop de parents qui voient les joueurs dans la Ligue nationale.
Parce que c'est.
Hey, ils le sentent les patins, ils ont deux, trois ans, puis je pense qu'ils pensent qu'ils vont signer un premier contrat dans 15 ans.
Ouais.
C'est ça le problème. Écoute, j'ai des écoles d'arbitre, ça fait 7 ans au Québec, puis je supervise aussi au Midget 3, puis au collégial, puis au Junior 3, puis c'est incroyable le monde. C'est les parents, c'est. Je dis les parents, il y a des coachs qui sont assez graves aussi, mais coachs. Point de vue coach, c'est quand même pas si pire, mais les parents, là, c'est incroyable. C'est rendu. sais, j'en parle à mes jeunes, à mes écoles, puis je ne sais même pas quoi leur dire. Mm-hmm. Je suis rendu que, écoute, je lui dis, allez-vous à la glace, fermez vos oreilles, faites votre job, vous avez un job à faire, votre travail, c'est de protéger les jeunes joueurs. Ils ont des coups d'hockey, vous les collez, il faut vous appeler des punitions. Vous êtes là pour les protéger, on est là pour appliquer les règlements. Le reste, on peut rien faire, on peut pas contrôler rien. Faites votre travail, allez-vous-en, puis allez-vous laver, puis allez-vous-en chez vous. C'est ce que je peux dire aux jeunes. Puis écoute, je les félicite, mes jeunes, j'en profite. Je ne sais pas s'ils vont écouter ça ou whatever, mais il y en a qui font vraiment un bon travail. Il y en a qui sont plus durs. Je leur laisse mon cellulaire. Il y a bien des jeunes qui m'appellent pendant l'hiver.
Ouais.
Je peux être passé des heures au téléphone avec des jeunes parce qu'ils ont de la peine, des parents qui m'appellent, que le jeune pleure. Puis dans ce temps-là, j'essaie de parler avec les parents, puis je mets un 3-way call qui appelle, puis je leur parle en même temps. Écoute, j'essaie de les aider le plus possible, les supporter là-dedans. Mais c'est pas toujours facile.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On peut pas mettre un bodyguard dans toutes les arénas. Vas-tu vouloir resserrer les règles, barrer du monde? Qu'est-ce qui aiderait justement les jeunes à faire leur chemin dans l'arbitrage, puis faire en sorte qu'on puisse continuer d'avoir des matchs à grandeur de la province? Parce que c'est ça l'enjeu, là. Pas d'arbitre, pas de game. Là.
Absolument. Écoute, je fais du bénévolat avec dans l'hockey CA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on en a parlé à un moment donné, on était rendu même qu'on voulait mettre des écrans dehors pour faire écouter les parents des games d'hockey dehors aux parents pendant l'hiver. Tu sais, on a dit, mais encore là, je pense qu'on punit les jeunes hockeyeurs parce que c'est le fun pour les jeunes hockeyeurs d'avoir du monde d'estrade et de jouer hockey devant le monde. Puis quand ça crie, tu scores, puis ça crie, puis c'est le fun. Là, si tu mets les parents dehors, ça coupe le fun à tout le monde. Puis, tu sais, je dis les joueurs, même pour les arbitres, c'est le fun d'aller faire une game d'hockey quand il y a 500-600 personnes dans l'aréna. Ou un arbitre aussi, que c'est le fun.
Ben oui.
Écoute, je ne sais pas. Écoute, t'as dit, je ne sais pas quoi te rapporte là-dessus. On ne peut pas fermer les arénas aux parents, ça rapporte à lui. Je ne sais pas. On fait arbitrer. À tous les années, on met un parent ou deux parents par équipe. Faites une game de hockey pendant l'hiver. Allez voir. Ouais. Faites la job, puis après ça, vous viendrez vous rassurer dans les salles, vous criez après les arbitres, ça prend.
Pas fou, ça.
Après les arbitres, rendu là, vous avez un problème.
On est avec Justin Saint-Pierre, arbitre d'expérience, plus de 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Justin, il y a plein de questions des auditeurs. Il y a quelqu'un qui se demande, c'est quoi le meilleur match que tu as arbitré de ta vie? As-tu un souvenir précis d'un match en particulier?
Écoute, mon premier match dans la Ligue nationale à vie, ça a été assez spécial. C'était toujours des affaires que je vais me rappeler toute ma vie. J'ai eu la game extérieure. Ma millième game que j'ai faite à Montréal. Ça a été tous des beaux souvenirs. Écoute, j'ai voyagé. Je suis allé en Chine avec la Ligue. Wow. Je suis allé en Europe. J'ai fait la game des étoiles. Toutes ces affaires-là, je vais garder ça dans mon pot de souvenirs à vie. Puis écoute, personnellement, ma première partie à Columbus que j'ai fait dans la Ligue nationale, j'avais un gars du Lac-Saint-Jean, j'avais 26 personnes qui étaient descendues pour donner un gros partage.
C'était
assez
cool.
Spécial. Là.
Très cool.
Je vous en parle, puis quasiment je de poser des affaires qu'on n'oubliera jamais. Là.
Est-ce que tous les arbitres sont des gros fans de hockey? Est-ce que tous les arbitres auraient voulu jouer au hockey? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à devenir arbitre?
Absolument, puis écoute, c'est une bonne question, Denis. Je pense que ce qui amène quelqu'un à devenir arbitre, je pense que c'est la passion. Tu sais, veux pas un joueur de hockey, ça l'aime le hockey parce que ça joue au hockey, mais quand tu t'arrêtes de jouer au hockey, tu veux continuer dans le hockey, tu veux rester. Je pense que le meilleur job à faire, c'est d'aller arbitrer. Uh-huh. T'es encore plus proche. Oui, un coach, t'es proche de la game aussi, mais un arbitre, t'es encore plus proche parce que t'es sur la glace puis tu patines avec les joueurs. Fait que tu peux pas être plus proche que ça. Le meilleur billet qu'on a, nous autres, là, vous pouvez pas avoir des billets meilleurs que ça. C'est quand on arbitre.
T'as-tu déjà eu peur? T'as-tu déjà eu la chienne dans un contexte? Des fois, on voit que les esprits s'échauffent, même dans la Ligue nationale, de te retrouver justement trop proche de l'action.
Écoute, j'ai vraiment eu la chienne, j'avais pas peur, mais on parce qu'il y a beaucoup de communication. Tantôt, Denis nous a parlé un petit peu de la communication. Tu sais, quand les jeux de ligne ou un arbitre, on rentre dans un échauffouré, on crie, les boys, on est là, calmez-vous, arrêtez. Souvent, à ce temps, on voit les gars, ils prennent le sifflet. Ça, j'adore ça. Moi, je le dis à mes écoles d'arbitre. Quand il y a un scrum, quand ça brasse après le sifflet, prenez votre sifflet.
Pour être entendu.
Quand tu vas à côté d'un joueur de hockey, puis tu lui donnes un petit coup de sifflet dans l'oreille, là, et tu te dis, fait, c'est fort. Ils font le saut. Ça, des fois, ça fait réfléchir. Fait que ça, je le dis à mes jeunes. Aidez-vous pas.
Un coup de sifflet proche des oreilles, ça saisit un animal. Ça peut saisir quelqu'un qui est en furie.
Non, mais parce que
c'est
un joueur de hockey qui ne voit plus rien parce qu'il est en maudit. Oh, oui, la personne qui est à côté dans son angle mort, il n'est pas capable de dire si c'est un chandail d'équipe ou un chandail rayé. Là.
Oh, oui.
Absolument. C'est pour ça que la communication est rendue importante dans ce cas-là.
Hey Justin, ça a été vraiment un plaisir de jaser ensemble. Je veux qu'on remette ça à un moment donné parce qu'on aura encore des dizaines et des dizaines de questions à te poser.
Ben, gênez-vous pas. Vous avez mes contacts. Gênez-vous pas, ça me fait plaisir.
Absolument. Merci beaucoup, Justin.
Hey, bonne journée, merci.
Salut, Justin Saint-Pierre, qui a été arbitre dans la Ligue nationale de hockey pendant plus de 10 ans, 1200 matchs. J'adore son franc-parler, c'est la première fois que je l'entendais.
Non, il est vraiment smart.
Super intéressant, puis je pense que tout le monde a le même constat hein, par rapport aux jeunes arbitres, c'est décourageant. Puis là, vous vous le faites dire par un arbitre à la retraite, là. T'sais, les parents, on est souvent le problème. Mm-hmm. On est le problème maintenant pour les écoles, on est le problème maintenant pour les arénas. C'est dur à entendre, mais je pense qu'il faut se parler, je pense qu'il faut se calmer les nerfs.
Aller chercher de l'aide.
Oui, quand c'est nécessaire.
Ça devrait-tu y avoir, mettons, ça existe encore un babillard avec des petites annonces dessus, là? Pas quelqu'un qui pourrait offrir un cours d'anger management à des parents qui se rendent compte que, sous le coup de l'émotion, ils dépassent... Elle dépasse la ligne régulièrement?
Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais c'est vrai que quand tu es dans la Ligue nationale de hockey, avec la force des mises en échec, la vitesse du jeu, puis tout ça, faut pas être trop froid dans le dos, puis faut que tu restes de glace en tabarnouche. Puis tu sais, des affaires auxquelles on parle pas, qu'on pense pas, mais tu sais, le cardio d'un arbitre, là, quand ça fait... Tu sais, le Canadien a été pogné dans sa zone hier pendant 2-3 minutes en deuxième période. Là. Les gars étaient brûlés, étaient plus capables de sortir. L'arbitre aussi, là, quand ça arrête pas, puis que ça fait 2 minutes et demie que c'est up and down.
C'est pas comme s'il pouvait retourner au banc. Là.
Ben non, exact.
Il joue pas à terre. Là.
Il peut bien aller se prendre de l'eau une fois de temps en temps, là, mais ça se limite à ça. Ça serait le fun de rejaser avec Justin à un moment donné, puis de prendre vos questions en général. C'est quand même un domaine. On les a tout le temps d'en face, les moseuses d'arbitre. Oui. Hein, fait que...
Je pense qu'on sous-estime tout ce que ça prend pour se rendre là. Puis moi, je trouve ça le fun, quelqu'un qui redonne après en formant de jeunes arbitres, parce que on veut que les jeunes fassent le plus de sport possible, mais pas d'arbitres, ils n'en feront pas.
Exact. Puis on revient tout le temps à ça. Puis moi, c'est tout le temps la réflexion que j'ai avec mes gars, de dire des arbitres, il en reste presque plus. Puis ceux qui restent, c'est vraiment des passionnés, puis ils font un travail exceptionnel. Et c'est pas parce qu'ils ont manqué un jeu ou parce qu'ils ont pas puni quelqu'un, puis que toi, t'aurais voulu qu'ils soient punis, que, tu sais, c'est grâce à eux qu'il y a des matchs. C'est pas de leur faute s'il y a des mauvaises décisions. Puis rendu dans la Ligue nationale de hockey, ben là, ils gagnent de l'argent, fait qu'on peut chialer. On aime ça chialer, là, on est à distance. Hey, il est presque 16 heures. Vous écoutez Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour, Audrey.
Oui, il y a un accident avec blessé là, sur le boulevard de l'Ormière, intersection de la rue Racine. Ça implique un véhicule et une moto. Ce qu'on dit, c'est que le boulevard de l'Ormière est présentement fermé à cette hauteur-là dans les deux directions. Plus de détails à venir à ce niveau-là. Le Véro, tu m'as envoyé, la circulation sur le boulevard de l'Ormière est bloquée entre la rue du Blanc-Manteau et la rue Louis 14. Donc, si vous avez d'autres détails par rapport à ça, 88 971 101, mais c'est arrivé dans les dernières minutes.
On s'arrête, on vient. Gravel.